Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net.
Wow! Yo! I got demons running all through me! All through me! Come on down here and see it! And hey, be back now. You get a free demon possession with every exorcism. Ah, you can't beat that, can you? And bring a little parts down here. Hell, we got plenty of snakes and lizards for them to play with. There's no problem with that at all. So, see it once, see it twice, third time's the charm. And remember, I'll eat anything you want me to eat. I'll swallow anything you want me to swallow. Come on down now. Chew on a dog. Oh!
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Valmino, je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonve. David, comment vas-tu ce soir?
Ça va très bien, toi Sébastien?
Ça va très bien, très très bien.
Comment a été ta journée?
Plein de choses excitantes aujourd'hui, comme aller acheter des décorations pour la fête de ma fille. Et faire l'épicerie. Ouais, c'est vraiment une vie, je sais, j'ai une vie glamour. Aller chez Maxi et puis un magasin de décoration, c'est super. C'est vraiment... Rien de trop beau pour les gens riches et célèbres. Tu viens-tu de l'émission, là, la vie des gens riches et célèbres?
Oui, je me souviens là-dessus.
Il n'y allait pas au magasin de pièces acheter des décorations.
Moi, à 8 heures, j'étais sur le ketchup vert.
Ah! Oh, t'as commencé, c'est la journée annuelle du ketchup vert.
Ben, en fait, la journée annuelle du ketchup vert, c'était hier. On a, comme à chaque année, ma mère est venue à la maison, puis... Oh, beau gif! excusez. Puis, bref, ça, ma mère est venue, puis là, Nancy, ma mère et moi, on avait acheté tout ce qu'il fallait jeudi. Et hier, on a fait 15 litres de sauce tomate. On a fait... qu'est-ce qu'on a fait aussi? Mais on a fait plein d'affaires. J'ai des betteraves. Puis on a tout préparé notre ketchup vert, mais il fallait le faire dégorger toute la nuit avec du gros sel. Ça. Fait que ce matin, ça sentait le vinaigre dans la maison à 8 heures.
C'est agréable. Ça commence bien la journée.
Yes! Fait que là, à 2 heures, tout était cané. J'avais 33 pots de ketchup vert.
Super.
Non, puis il est bon en plus. Là. Je t'en donnerai un pot la semaine prochaine qu'on se verra pour la fête de ta fille.
Oui, c'est certain. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qui s'est passé? Je vais te poser une question de même. Là. Je vais te mettre en the spot. S'est-il passé de quoi de geek dans ta semaine cette semaine?
Ben, j'ai écouté... je me suis mis à jour dans Star Trek Discovery.
Pour nos patrons... J'ai mis sur Patreon notre petit mini épisode d'impression sur le début de cette série-là. Vous irez écouter ça, vous allez voir. Vous allez avoir le droit à nos opinions sur le départ de cette série. Tu vois, moi, j'ai écouté le deuxième épisode de The Orville. Je sais pas si t'as mis à écouter The Orville.
Non, je me suis pas mis à écouter ça. Comme tu le sais, comme j'en parle souvent. Avec ma petite fille, les gigs, le travail. Là, je travaille comme 60 heures par semaine. D'ailleurs, Beetlejuice, j'ai été obligé de l'écouter dans le métro cette semaine pour que ça fonctionne.
Tu vois, moi, j'utilise souvent la fin de semaine que j'ai pas mes enfants pour travailler. J'ai travaillé pas mal. J'ai une to-do list, là, puis aujourd'hui, c'était comme cling, 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 ça partait. Là. Mais j'en sers aussi pour rattraper, genre pour écouter ces affaires de Vision X, me rattraper un peu de télé. Tout ce que je vais vous dire, là, je vais conseiller aux gens d'aller sur Patreon, ceux qui sont déjà des patrons, d'aller écouter ce qu'on en pense. Mais ceux qui ne sont pas encore des patrons, 1$ par mois, c'est pas grand-chose. Ça nous aide à garder Vision X en vie et vous avez du contenu exclusif. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que je suis fort heureux d'avoir, dans le fond, deux séries très Star Trekiennes qui remplissent deux fonctions différentes à la télé en même temps.
Mais The Orville, c'est pas une comédie de Seth MacFarlane?
Ouais, mais c'est du Star Trek. C'est du Star Trek fait par MacFarlane. C'est pas une comédie qui est comme haha, tu sais, genre, c'est pas que tu ris tout le temps. C'est pas des jokes. C'est pas ça. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment très Star Trek, là. Mais avec un côté de comédie de Seth MacFarlane, ça vaut la peine. On a deux, une dramatique, une plus drôle. C'est un beau moment.
Parce que sinon, moi, dans les plus drôles, j'étais en train de finir de me taper les Friends. Fait que,
oh boy.
Ça achève, là. Fait que ça...
Qu'est-ce qui est le fun dans Friends? C'est que tu peux voir l'évolution de l'addiction. Je sais que c'est pas un bon monde, mais bon. Voyons du gars qui fait Chandler, là, comment il s'appelle. Tu peux voir quand genre il prend de la drogue, quand il apprend pas. Genre, ouais, quand il est maigre, vraiment, il prend pas de drogue. Quand il est gros, il apprend.
Son poids change radicalement d'une saison à l'autre. C'est assez intense.
Mais au lieu de parler de drogue, on va parler d'une autre sorte de drogue. David, présente-nous le film de la semaine.
Cette semaine, nous avons écouté Beetlejuice, comme il est écrit sur IMDb en français. Beetlejuice, je ne le redirai pas donc deux autres fois, de peur que Beetlejuice se présente. Bref, le scénario de Beetlejuice, l'histoire, c'est donc deux personnes qui meurent dans un accident de voiture. En fait, ils sortent d'un pont, ils se noient dans une rivière. Ils sont morts chez eux et des personnes donc viennent habiter chez eux, chez ces fantômes. Et eux, ils essaient d'expulser la famille qui vient emménager. Qui réaménage la maison dans un goût vraiment horrible. Et ils pensent à un moment donné utiliser les services d'un bio-exterminateur. Bio-exorciste.
Exorciste, ouais.
Un bio-exorciste pour chasser justement cette famille. Mais finalement, ça ne fonctionne pas du tout. Ils finissent par s'apprécier beaucoup plus les uns les autres qu'ils ne le croyaient à la base. Et ça finit bien, en fait. Il y a un happy ending là-dessus.
C'est ça. On aime ça, des happy endings. Mais...
ça, je disais à Nancy l'autre fois.
Ah, c'est ça. Surtout quand c'est un massage. Mais première chose qu'il faut régler, David, là. Crois-tu que l'accident était suffisant pour qu'il crève?
Ben, mettons qu'ils se sont cognés à la tête ben fort.
Ouais, mais ils n'ont pas tombé de ben... Tu sais, on s'entend que le pont n'est pas même plus haut que, tu sais, si tu mets le char de même, là. Fait que le char aurait juste fait comme... Tung! Tu sais? C'est ça qu'il fait un peu, puis je comme...
Mais en théorie, ils sont morts noyés.
Ouais, mais il a fallu qu'ils s'assomment, qu'ils soient assommés pour moi, mais c'est que... Ben, tu sais, rendu à la fin des années 80, il me semble qu'on était obligé de mettre nos ceintures. Hein? Je me souviens plus.
Je me souviens plus de ça.
C'est quelqu'un qui sait à partir de quelle époque on avait le droit. On était obligé de mettre nos ceintures. Mais je pense qu'en 1988, on était obligé. Je sais pas. En fait, par rapport au scénario, c'est la seule chose qui m'a vraiment buggé. J'étais comme. C'est pas assez. Tu sais, il aurait fallu qu'il tombe. Tu sais, comme dans le jour de la marmotte. Ouais! C'est de gros. Précipice, gros, ça fait s'arrêter, tu sais. Moi, j'aurais vu ça de même. Il y a une falaise, les freins, ils lâchent. Ils tombent en bas, ils sont morts. Là, c'est plus clair. Le petit pont. Il est cute, le petit pont, d'ailleurs. Là. Ça fit. C'est vrai que ça fit dans le contexte du petit village du Connecticut, là, tu sais. Mais. C'est juste ça qui m'a dérangé dans le scénario. Toi, le scénario. Y a-t-il quelque chose? Aujourd'hui, je suis dans les questions précises, David. Est-ce que t'as une crotte par rapport au scénario, toi, de ce film-là?
Oui, et je t'en parlerai d'ailleurs au moment de la question du geek. Donc, je vais me réserver pour ça.
Tu vas réserver ta crotte pour plus tard. OK.
Et voilà. Mais sinon, écoute, moi, j'avais pas vu ce film-là depuis les années 90, probablement. Il me semble que la dernière fois que j'ai écouté, ça a passé à la TV.
Aussi,
puis j'étais
ça fait longtemps,
quand même assez jeune, tu sais. Puis, j'aimais pas ça, ce film-là. J'aimais vraiment pas ça, ce film-là, quand j'avais comme 12-13 ans, à peu près, la fin de même. Je voyais pas c'était quoi le but de ce film-là, puis je voyais pas aussi que ça s'en allait, puis c'était pas particulièrement drôle. Tu sais, c'est pas une comédie...
T'as pas ses cuisses.
Non, c'est ça. Puis, mais c'est comme de l'horreur, mais pas... Fait que tu sais, je savais pas sur quel pied danser quand j'écoutais ce film-là quand j'étais ado. Mais finalement, à le réécouter, j'avoue que j'ai quand même pas mal aimé ça.
Mais j'ai une question. Tu viens de me faire flasher quelque chose. quand tu l'avais vu là, à l'époque, est-ce que tu avais vu beaucoup de films de Tim Burton?
Non.
Ah.
Mais c'est ça, tu sais, j'avais comme 12, 13 ans, comme j'ai dit. Ça fait que c'est en 92, 93. Donc, c'est ça, parce que c'est juste qu'on rentre vraiment dans un univers bien particulier. Évidemment, la plupart des films de Tim Burton font en sorte qu'on rentre dans un univers bien particulier. Puis, tu sais, ça s'appelle Beetlejuice, mais pour de vrai Beetlejuice, tu le vois
très peu. Ouais.
Ben, tu sais, tu le vois, mais très, très, très peu. Là, il rentre à 25, 26 minutes du film. Mm-hmm. Tu sais, pour le titre. Le personnage titre, éponyme, tu sais, c'est quand même un peu tard.
Le rôle titre, c'est un personnage secondaire, en fait. C'est un rôle secondaire.
Oui, vraiment. T'sais. Et puis, moi, j'adore le titre qui avait été choisi avant que ça soit Beetlejuice. Là.
Ah, je l'ai pas vu.
C'est Scared Sheetless.
Oh!
je trouve que c'est un titre excellent pour ce film-là.
Ben ouais.
Fait que, parce que bon, pour la petite histoire, donc ceux qui n'ont pas vu le film, la famille qui arrive là-bas, ils ont une petite fille, ben une adolescente, et l'adolescente, c'est une emo. Mais elle voit les fantômes. Fait que là, elle commence à prendre des photos d'eux autres, puis tout ça. Puis c'est elle qui fait le lien entre les fantômes et la famille. Qui essaye d'ailleurs d'aider les fantômes à faire peur à ses parents. En tout cas, c'est une drôle d'histoire. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Sébastien?
Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant de ce film-là, puis c'est drôle, c'est le fait que... Bon, ça, c'est après le grand succès de du film, de l'autre film avant que Tim Burton avait fait, qui est Pee-wee's Big Adventure. Écoute, c'est sûr qu'on va faire avoir Vision X, là, c'est clair. Là. Moi, je trouve que ça fit quand même dans ce qu'on fait. Là. Ce qui est drôle, c'est comment Tim Burton en est venu à faire ce film-là, à faire Beetlejuice, c'est qu'il recevait des scénarios. Parce qu'il a fait beaucoup d'argent. Là. C'est devenu... je m'en ai dit un best-seller. Voyons donc, j'ai un blanc de mémoire. Un blockbuster. Pee-wee's Big Adventure, c'est un blockbuster. Fait que c'est sûr que Tim Burton est devenu un réalisateur en vue. Fait que les gens lui ont envoyé des scénarios, puis il était comme, man, ça manque totalement d'imagination. Tout ça, ça manque totalement d'imagination. Tim Burton reçoit le scénario de Beetlejuice, il fait comme « Wow, c'était écœurant! » Puis qu'est-ce qu'il fait avec? Il le fait réécrire en entier par deux autres personnes. Moi, ça me fait rire le fait que genre il a trouvé ça malade, mais il a fait que l'idée est hallucinante, mais le scénario est pas bon, tu sais. Puis là, finalement, il a fait « Ok, ça c'est mon prochain film. » Et écoute, c'est fait, c'est tailor-made, là, si on dit en anglais, pour Tim Burton. C'est un monde complètement fantastique, complètement... où il y a des règles, mais tu sais pas pourquoi ils sont là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tu t'en fous, tu sais pas, tu catches à un moment donné que c'est genre la planète, tu sais, genre quand ils s'en vont, puis il y a des espèces de sable des vers de sable, tu crois comprendre que c'est Saturne parce que genre Beetlejuice il dit oh vous aussi vous avez été sur Saturne, tu sais, est-ce que vous avez... moi aussi j'ai eu ça les vers de sable, j'étais comme mais qu'est-ce que c'est. Mais c'est Tim Burton, c'est correct, on aime ça.
C'est une grosse bébite.
On veut ça, tu sais. Ouais, j'adorais ça, c'est un scénario qui est brillant, qui est bien fait. C'est une histoire qui, oui, est un peu prévisible, tu sais, je veux dire, ah, oh, finalement, ils deviennent amis, tu sais, mais qui passe par des endroits qu'on...
Ben, tu penserais jamais que ça irait. C'est ce que je détestais dans les années 90 quand j'étais plus jeune, mais c'est ce que j'adore maintenant en tant qu'adulte. C'est que ça, c'est tout sauf une ligne continue, ce film-là.
Exact.
À toutes les 15 minutes, ça prend une chire. Là. Ça s'en va complètement ailleurs. 15 minutes plus tard, ça s'en va dans un autre sens complètement. Un autre 15 minutes plus tard, whoop, on s'en revient à case départ. Puis 15 minutes plus tard, whoop, on est rendu à un autre plan. Fait que je comprends que pour l'adolescent qui n'était pas nécessairement aussi bien établi intellectuellement, tu sais, ça pouvait être, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'était inconfortable, tu sais. Mais en tant qu'adulte, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, tu sais. Puis le personnage de Michael Keaton qui est complètement pété, là, tu sais, ça sort vraiment. C'est pas un personnage qu'on a vu nulle part ailleurs, tu sais.
Il est pas juste complètement pété. Là. On s'entend, là, c'est un pervers. Pédophile, c'est bord. qui est comme aucune considération pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Il y a aucune morale. Tu sais, il y a zéro morale. Il y a aucune valeur. Il y a rien que tu peux... Je m'en souvenais pas qu'il était aussi dégueulasse que ça. Et ça revient... Il revient à quelque chose que je dis souvent. Man, en 2017, là, je veux dire, c'est encore dans l'air. Là. On en parle encore là, de faire un deuxième. Là. Est-ce que tu peux vraiment faire Beetlejuice, le personnage, son personnage comme en 88, aujourd'hui, 30 ans plus tard?
C'est étrange. Ouais, non, je sais pas à quel point ça passerait. Il y aurait des décisions éditoriales à faire, je crois, parce que non, effectivement, ce serait particulier.
J'ai été surpris par le langage, parce qu'il sacre.
Ah oui.
Et ça, c'est un fuck, là, maintenant.
Oui, il y a un F-word dedans. D'ailleurs, c'était un des seuls trois films qui incluait le F-word, mais qui avait un PG-13.
Ben, c'est parce qu'il il dit pas d'une manière très...
C'est pas, ça rentre assez fluide.
Ouais, hein, c'est pas cru. C'est comme, c'est drôle, mais ça fait partie de... C'est dans un laïus qu'il fait. Puis ça passe parce que, man, des laïus, là...
Ouais, il y en a tant que t'en veux, là.
Tu sais, je veux dire, quand il a lu le scénario, là, il a dû faire comme, man, j'ai-tu des dialogues? Parce que, genre, c'est souvent des monologues, là, mais longs, là, puis comme... Mais écoute, moi je pense que là où ce film-là, ça fait deux là dans la même phrase, hein, excusez. Hein, ça, là les gens m'écoutent, là, puis là c'est genre Denise Bombardier, elle va dire que tous les profs...
Non, enchaîne Sébastien, parce que Denise Bombardier...
savent pas parler français comme du bon. Mais je pense que là où... Le scénario, on peut en parler, on peut faire... Mais vraiment où ça vaut la peine de discuter dans ce film-là, je crois, c'est les acteurs. Et on va prendre le temps qui est dû à Michael Keaton pour parler de sa performance dans ce film-là, dans le rôle de Beetlejuice, évidemment. C'est phénoménal. Moi, j'étais complètement scié en deux. Genre, je fais... OK, il a fait Batman l'année d'après.
Ben en fait, c'est son travail sur Beetlejuice avec Tim Burton. Tim Burton a fait « Oh wow, tu sais, quel acteur! » Il est capable de me lancer bien des affaires weird, tu sais.
Ouais.
OK, bon, ben je vais l'engager, je vais faire Batman, tu sais. D'un extrême à l'autre.
Mais c'est pas juste un extrême, c'est le fait que, pour moi, c'est le fait que Michael Keaton démontre une capacité, un rythme comique absolument incroyable dans ce film-là.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben, tu parlais des scénarios, puis des monologues qu'il fait. Et puis, il y a, entre autres, un monologue quand Beetlejuice parle des études qu'il a fait, qu'il a étudié à telle ou telle université.
Ah oui.
Pendant une ou deux secondes, Beetlejuice et, c'est-à-dire Michael Keaton, sort du personnage puis reprend sa voix normale. Mais c'est parce que tout son monologue, il y a une partie du monologue, tout son monologue, mais bien une partie du monologue qui est improvisée et il parle de ses vraies études à lui.
Ouais. C'est malade.
Fait qu'il décroche du personnage pendant deux secondes, puis il parle avec sa vraie voix, tu sais. Mais comme le personnage est tellement excentrique, prend des costumes, prend des tournures, prend des accents, ça fait en sorte que ça fonctionne dans le lien de de ce monologue-là.
Non, mais c'est pour vrai, là, c'est fascinant ce qu'il fait, tu sais. Comme tu dis... C'est là, dans ce monologue-là, t'as le fait qu'il prend sa voix normale, mais c'est bon, l'espèce de voix qu'il crée pour Beetlejuice est vraiment, vraiment hot. Mais c'est qu'il est capable de jouer avec cette voix-là. Et cette voix-là a différents types, différentes affaires qu'il utilise avec.
L'intonation.
Il y a des tics, il y a ses manières de regarder. Sa tête est jamais droite. Mm-hmm. Je sais pas si t'as remarqué, il y a tout le temps la tête à côté, il regarde les choses. Tous ces trucs-là, pis ces gestes sont saccadés, sont d'une façon que c'est débile. Ça crée un personnage qui est complètement disjoncté, qui est plus grand que nature, qui est crédible,
Et qui s'appelle jus de coquerelle.
Tu sais. Puis maintenant, il bouffe une coquerelle. Mais. C'est ça, tu sais. Puis, c'est une performance. À chaque fois qu'il est là à l'écran, là, t'es rêvé. T'es comme, ah, qu'est-ce qu'il fait? T'es absorbé par ce qu'il fait. Puis c'est grandiose, c'est fort. C'est digne de il aurait pu être oscarisé. Mais il a gagné un prix, je pense, pour ça. Mais pas un Oscar. Genre, en tout cas, jamais aux Oscars, tu vas voir. tu vas voir un rôle de même être récompensé. Là. Mais non, c'est vraiment très hot.
Non, c'est vraiment une grande, grande, grande performance. Mais évidemment, il y a la performance, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la performance, c'est-à-dire le costume, la perruque. J'imagine que c'est une perruque. Mais je crois que c'est vraiment les cheveux de quelqu'un, ça.
Je pense pas, même.
Mais tu sais, il y a des fausses dents en tout temps, puis cette espèce de costumes, ces costumes qui varient l'un après l'autre, là, parce qu'on en voit un autre à l'écran. Mm-hmm. Mais tu sais, le fameux costume rayé qui fait penser qu'il est comme en prison, mais justement, il faut le libérer en disant trois fois son nom. Puis ça donne vraiment de la performance, de la profondeur au personnage. Ouais. Donc en plus, quand la performance est au rendez-vous, ça fait en sorte que la combinaison, le résultat ultime est absolument incroyable. Ouais.
Il a gagné le prix du meilleur acteur donné par le National Society of Film Critics Awards, les Film Critics Awards. Il a gagné pour Beetlejuice. Puis, oh vrai, c'est très mérité. Puis je trouve ça drôle, tu sais, qu'on parle aujourd'hui de Michael Keaton, parce qu'il y a une espèce de renouveau, tu sais.
Oui, ben avec le dernier Spider-Man.
Ben, puis il y a eu. Mais espèce, en fait, ça a été déclenché beaucoup par Birdman.
Oui, aussi.
Qui, est comme, tu sais, qui l'a ramené. On a oublié un peu comment c'était un grand acteur. On le connaît beaucoup pour bien des comédies boboches à un moment donné, Michael Keaton. Mais quand on lui donne. Quand on lui donne de la viande, là, il sait quoi faire avec.
Ah ouais, non, c'est vraiment un grand acteur, extrêmement
bon. Je l'adore, il y a quelque chose.
T'as vu Homecoming?
Homecoming, non.
Spider-Man Homecoming?
Non, je l'ai pas vu.
Ah non. Écoute, belle performance de Michael Keaton.
Il fait le Vulture, j'aime beaucoup le Vulture, ouais. D'ailleurs, c'est un personnage que j'aime bien.
Mais il y a vraiment quelque chose là de...
De super...
Je sais pas. Non, mais c'est que, tu sais, dans ce film-là, il joue le rôle d'un père de famille qui fait des crimes, qui vole, en fait, essentiellement des matériaux extraterrestres, puis tout ça. Puis qui revend ça pour faire de l'argent pour sa famille, tu sais. Son pourquoi, c'est parce qu'il veut prendre soin de sa famille, tu sais. Fait que ça le rend.
Ça l'humanise.
Ça l'humanise, c'est ça, tu sais. Puis en tout cas, je veux pas te voler le punch, là, mais il y a vraiment un côté attachant, mais en même temps très, très droit, très sec. Bref, quand on en revient à Beetlejuice, puis là, qui est complètement pété, là, une espèce de ballon incroyable, ça fait en sorte que c'est le moment de placer notre mot célèbre.
Dichotomie! Il faudrait que j'aille un truc sur Soundboard comme ding, 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 dichotomie. Alec Baldwin, qui joue Adam...
Je me rappelle pas qu'il jouait là-dedans, moi.
Ben, mais écoute, je le reconnaissais pas. Je pense que c'est avant qu'il soit fou, ça. Mais... non, il y avait... Je trouve qu'il est bon.
Ben, il est correct.
Il fait correct. T'sais, Adam Baldwin, il est beige.
Fait que, ouais, non, c'est ça.
Il fait bien le beige.
Mais tu sais, on lui demande... Comment je pourrais dire ça? Faut pas que son personnage prenne trop de place.
Non.
Parce que sinon, ça va diluer Beetlejuice, puis ça va diluer d'autres personnages dont on parlera probablement un peu tantôt. Là.
Ouais.
Mais essentiellement, les Maitland, donc les deux, le couple qui meurt et qui essaye d'hanter leur maison, faut pas qu'ils prennent trop de place. Faut qu'il y ait de l'air décalé par rapport à l'univers complètement fou. faut pas qu'il soit habillé avec des couleurs trop franches, faut pas qu'il soit habillé avec des styles de vêtements trop intenses, faut pas que les lunettes soient trop grosses, faut pas que les lunettes soient trop petites, faut pas que les cheveux soient trop nasaires, faut pas qu'ils soient trop plats, faut juste qu'ils fit dans le moule. Et ça, je trouve qu'Alec Baldwin, puis on parlera probablement de Gina Davis un peu plus tard, ouais. Mais Alec Baldwin fonctionne très bien dans ce rôle-là. T'sais, il répond bien au créneau que son personnage demande.
Je suis d'accord avec toi. Puis ce que tu dis là, c'est super parce que c'est vrai. Les Maitland sont complètement dépassés par ce qui se passe là. Les Maitland, non seulement ils sont dépassés, ils réussissent comme pas à comprendre. Ils sont tellement décalés. Là. Ils vivent tellement dans un. Ils vivent dans la vie. Là, quand ils étaient vivants, ils étaient tellement décalés de la réalité qu'ils sont aussi dans la mort. Fait que. Ils réussissent jamais à comprendre ce qu'ils sont supposés de faire. Ils sont tout le temps. Ils lisent le livre, là, mais ils comprennent rien. Puis ils disent tellement de fois. Puis à quoi ils comparent toujours le livre? On dirait le manuel de système de son. On dirait le manuel de. Fait que c'est comme. Ok, des choses. C'est trop compliqué pour eux. Eux, c'est simple. Fait que.
Mais je dis quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que même de leur vivant, ils sont décalés.
Ouais.
Avec la réalité. Puis c'est un très bon point que tu soulignes parce que t'as-tu vu sa robe à Gina Davis?
Ouais, écoute, c'est quelque chose. Hein?
Barbara Maitland, écoute, on dirait une sœur. On dirait qu'elle sort du 19e siècle. Là,
je sais.
Avec une espèce de robe avec des espèces d'épaulettes épouvantables, frou-frou, carrées. On dirait qu'elle a pris une vieille nappe pour faire sa robe. Puis il habite dans une immense maison, là. Ça a l'air vraiment gros, cette affaire-là. Puis ils sont juste deux.
Ouais.
Le gars, il fait des miniatures, des maquettes. C'est ça son hobby et sa profession aussi, j'ai bien compris. Ah!
Mais ça sert. Puis tu sais, je vais parler aussi de Gina Davis, puis on va continuer, on va développer cette idée-là. Gina Davis qui fait très bien le beige aussi. Elle a un côté.
Ah oui.
Non seulement elle fait très bien le beige, tu sais, on dit que les Maitland ils sont dépassés et qu'ils comprennent rien. Gina Davis, tout le long de ce film-là, elle a de l'air d'une cruche, man. C'est débile. Elle a un regard de comme, je ne sais pas, d'une espèce de regard de comme, ah, allô? Tu sais, elle comprend rien. Là. Mais pas. C'est une cruche, mais vide. C'est comme. Elle est conne. Ça n'a pas de bon sens comme elle est conne, tu sais. C'est parfait parce qu'on a vu Gina Davis dans beaucoup de films.
Ouais.
Puis elle a pas de l'air de ça dans la vie de Gina Davis.
Non, c'est ça. C'est pas parce que c'est son casting.
Non, pas en tout.
C'est juste parce qu'on lui a demandé ça et elle a réussi à le faire. T'sais.
Mais c'est son regard vide qui me fait triper. Là. Elle a de l'air de niaiseuse. Fait que. Puis comme tu disais, c'est ça les Maitland. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'opposition des Maitland aux Deeds.
Avec... Ouais.
Qui sont aussi une opposition très, tu sais, des années 80, où on arrive dans les années 80. Les années 80, c'est très, très... Tu sais, on pense que c'est qu'on est matérialiste aujourd'hui, puis qu'on aime les objets avec nos iPhones, nos affaires. Mais tu sais, un iPhone, c'est une utilité. Tu comprends? Ça sert à quelque chose. Un ordinateur, ça... Dans les années 80... On était dans le matérialisme pur et simple. Des objets inutiles. L'apparence, le truc. Ça, c'était ce qui était fort.
Les cheveux.
T'sais, tout était over the top. Fait que c'est ça qui est cool dans cette espèce d'opposition-là de valeur. T'sais. Les Maitland, ils ont cette espèce de grosse maison dans le fin fond d'un trou qui sert à rien. Tout le monde est comme, mais vendez-le, ça vaut cher de faire full de cash. Parce qu'à cette époque-là, qu'est-ce qu'on faisait? On rapetissait, tu sais. La popularité des condos, vous allez faire la même. On t'achète un condo en ville, tu sais, c'est plus petit. Mais là, tu peux te décorer. Pourquoi tu vas avoir une grosse maison en campagne? Vous êtes juste deux, tu sais.
Ah oui. Ben ça, c'est l'argument de vente de la gente d'immeubles. Mais tu mets le point sur un autre aspect du film qui est justement le plus petit pour pouvoir décorer la déco des années 80.
Ouais.
Puis justement, une chose qui fait en sorte que les Maitlands veulent effrayer les Deeds, c'est que la décoration est absolument horrible.
C'est horrible.
épouvantable.
Non, mais tu sais, on rentre dans des couleurs, dans des affaires qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Tu sais, moi, là, quand j'étais jeune, dans les années 80, ma soeur était ado, là, tu sais. Elle voulait peinturer toute sa chambre en noir. Mais c'est très années 80, là.
Ah oui. Non, non, c'est très années 80. Puis, mais plus que ça, je trouve que c'est dans la dichotomie des styles aussi. Dans le sens où il y avait aussi, c'était comme le mix du design carré, du blanc, du noir, et en même temps de l'ancien, les courbes, le vieux, tu sais, il y a comme, fait que là, t'as comme les deux styles en même temps, puis ça, on le voit bien, mettons, dans la scène du repas, là, scène où ils sont possédés, puis ils chantent,
Quelle scène!
Quelle scène assez intense. Vraiment hot. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, il y a comme la table qui est en espèce de marbre cassé sur les bords, les chaises en métal très carrées. T'as les espèces de sculptures d'animaux, de roches, de griffes, weird dans le fond. T'as le feu de foyer qui est en pierre blanche carrée. Là, t'as les vêtements de tous les personnages qui sont complètement flyés, comme ça les années 80 qui étaient capables de nous
en donner. Les mains peinturer une espèce de faux fini pour que ça ait l'air de la roche. Tu sais, on s'entend que les années 80, c'était le faux fini. Là. Ah, ouais. Mais c'est ça, les deets. C'est ce que les deets nous amènent. Puis les deets, le premier deets qu'on va parler, c'est Lydia Deets, qui est jouée par Winona Ryder.
Qu'est-ce que tu as pensé d'elle?
Premièrement, je trouve ça drôle qu'on fasse, octobre, je me suis dit un mois d'Halloween, on fait des trucs d'horreur, mais c'est plus côté comédie. Winona Ryder, qu'est-ce qui sort à la fin du mois? Je sais que t'as pas aimé ça, mais c'est la deuxième saison de Stranger Things, qui est comme l'espèce de renaissance.
Non, c'est pas que j'ai pas aimé ça. C'est que j'ai pas accroché au point de changer ma vie autour de ça. Parce que si j'enregistrais pas Vision X... Ça ferait longtemps que j'aurais écouté Stranger Things. Okay.
C'est à cause de Vision X maintenant. Bref, tu sais, Stranger Things, c'est comme le renouveau de Winona Ryder. Et ça, c'est une des premières affaires vraiment que Winona Ryder nous a frappé. Moi, j'ai trouvé que c'est une très bonne performance. Là. On s'entend, là. Elle est toute jeune quand même. Je sais pas, elle a quel âge. T'as-tu vu, elle a quel âge maintenant?
Elle était vraiment, vraiment pas vieille. Là.
Okay, elle a 45 ans, Winona Ryder. Ça, c'est ça. On va faire des maths. Des maths en direct à Vision X.
Elle est née en 71. Ça, c'était en 88. Elle avait donc 17
ans. 16-17 ans. Ben, 16 ans, parce que ça a été...
Ouais.
Fait, man, je la trouve très bonne. Pour une jeune qui acte, c'est rare que c'est bon.
Oui, mais elle acte pour de vrai, tu sais. Puis évidemment, bah, c'est, j'en ai écouté des épisodes de Stranger Things, là. J'en ai écouté comme 2, 3, 4, je sais plus trop. Encore une fois, si on met ça, si on confronte, mettons Stranger Things puis Beetlejuice, des rôles de composition, des rôles complètement à l'opposé l'un de l'autre, tu sais.
Mm-hmm.
Parce qu'on s'entend autant dans Stranger Things que dans Beetlejuice, elle joue le rôle de quelqu'un qui est émotivement éméché, disons ça comme ça.
Ouais.
Mais c'est complètement, c'est deux univers complètement à l'opposé l'un de l'autre. Là.
Mais écoute, c'est ça, dans Beetlejuice, elle est hallucinante, elle est captivante, elle... Au début, tu fais comme, ah, oh, ça va être gossant à mener son affaire d'ado, de comme, ah, oh, tu sais, ma vie, de la merde, tu sais. Mais non, parce que tu te rends compte qu'il y a plusieurs couches à ce personnage-là, là. Puis il y a une complexité, puis il y a une affaire de. Puis il y a un malaise juste au fait qu'elle n'a jamais trouvé quelqu'un qui lui ressemble.
Mais tu parles des couches de ce personnage-là, c'est intéressant parce que l'ado incompris, emo, tout ça. Mais il y a quand même la fonceuse.
Oui.
Il y a quand même l'humoriste, la queue-clown,
oui.
La fou du roi qui fait des blagues, tu sais, puis qui réussit à sortir l'absurde d'une situation, à mettre le doigt sur l'absurde d'une situation. Puis, fait que tu sais, il y a plusieurs couches au personnage. Ça rend la chose vraiment intéressante.
Ouais, oh, c'est vraiment le fun. Puis je trouve que ça fait un bon contrepoids parce que dans le fond, elle, sa douleur dans la vie, c'est le fait que ses parents sont vides un peu, ils sont vides de sens, tu sais. Puis à la fin du film, en bout de ligne, il développe un sens, tu sais. Je veux dire, il continue à faire ce qu'il faisait dans la vie, chacun. C'est juste qu'ils le font pour une raison autre que juste pour le faire, tu sais. Même finalement, là, sa belle-mère devient une artiste reconnue. Son art marche, c'est correct. Mais là, tu vois qu'elle prend plaisir à ce qu'elle fait. Fait que je trouve ça drôle parce qu'en bout de ligne, par elle, elle libère ses parents de cette espèce de elle permet à ses parents de donner un sens à ce qu'ils font. Fait que. Puis elle fait très bien ça. Puis tu vois son malaise. Puis comment elle se transforme à la fin du film. Parce qu'elle n'a plus de malaise. Elle veut juste être heureuse. Puis être bien. Puis elle veut des choses simples, tu sais. Oui. Fait que non, c'est super ce qu'elle fait. Oui, non,
très bon personnage et belle performance. Ouais. Sinon, Maman Deeds.
Catherine O'Hara, qu'on connaît tous de étant la maman dans Maman, j'ai raté l'avion, est très bonne dans ce film-là.
Très bonne.
Très, très bonne.
Et encore une fois, quand on met les rôles en opposition des acteurs, je trouve ça vraiment le fun. T'sais. Quand on regarde justement Maman, j'ai raté l'avion versus Beetlejuice, encore une fois, deux univers complètement différents, mais moi, ce que j'ai bien aimé de ce personnage-là, c'est l'espèce d'excentricité. Ouais. L'excentricité par rapport à l'art, la sculpture, aux formes, la robe. Genre, on parle de la fameuse scène du souper, de la possession, tout ça.
Ouais.
Elle a une espèce de robe qui n'est pas symétrique, asymétrique, avec une manche longue d'un bord, courte de l'autre, ouais, mais avec un gant. Et puis, donc,
très années 80.
Très années 80, très flyé. Mais, on en parlait tantôt, comparé à Beetlejuice, c'est parce que t'as comme les Deeds qui sont un peu flyés, puis t'as Beetlejuice d'un autre bord, puis entre les deux, t'as les Maitlands qui sont beige. Ouais. Là, ben c'est ça. Fait que là, on est comme dans l'autre côté du spectre. Mais je trouve ça le fun que Catherine O'Hara, elle nous fasse un personnage qui est complètement disjoncté, mais à un autre niveau que Beetlejuice. Ouais.
Ben, tu sais, les Deeds et les Maitlands sont des caricatures. Ce sont des caricatures de deux choses différentes. Beetlejuice est une espèce de c'est la folie. Pur et simple. La folie sans aucune... genre, il est fou. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en même temps, même si c'est flyé, elle reste quand même dans un peu de réel parce que la caricature de quelque chose. Mais ce que je dois dire ça va. Y a-tu un tremblement de terre chez vous? Mais.
J'essayais de me replacer.
Fait que. Non, mais Catherine O'Hara, ce qu'elle fait dans Maman, j'ai raté l'avion, elle nous fait la mère parfaite. Elle incarne ce qu'on voit comme la mère. Là-dedans, elle fait la caricature de l'artiste. Puis on s'entend que toi et moi, bon, on est musiciens,
on est des artistes.
Avoue que c'est quand même la caricature chiante qu'on trouve des artistes. Oh, côté oui, genre non, des artistes sont comme « Ah oui, mais j'ai fait ça pour l'art. » Je vais vous péter votre ballon, tout le monde, je pensais qu'on fait ça. On fait ça aussi pour manger. Non, mais c'est vrai. On va enlever le côté romantique de la chose.
Tu sais, le stéréotype des musiciens classiques là, qui s'habillent en queue de pie, puis en boucle blanche, puis qui boit du vin, puis... mais tu sais, dans la 5e symphonie de Beethoven, à la mesure 175 du deuxième mouvement, ben... Non,
man. Oh, on est du monde bien normal.
Il y en a une petite portion.
Ouais. Mais on est comme
1%.
On est comme tout le monde. C'est une job. C'est vrai, tu sais, c'est une job. T'sais.
Ah,
c'est
exactement ça.
Jeffrey Jones qui joue Charles Dietz.
Ah, Jeffrey Jones.
Notre
Jeffrey Jones.
Notre pédophile préféré. Mais... Écoute, je trouvais ça le fun de le voir là, dans ce film-là, parce que c'est quand même un rôle différent. Il est pas méchant.
Non.
Il est, en fait, il est tout le contraire dans ce film-là.
C'est l'espèce de... Comment je pourrais dire ça? Le côté terre-à-terre de la famille des Deeds. C'est lui qui achète la grosse baraque parce qu'il veut... Essentiellement, il veut avoir la paix, ce personnage-là. C'est tout ce qu'il veut dans l'histoire. Il veut juste qu'on y foute patience. Évidemment, ça arrive pas.
Il a acheté une maison hantée, man. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Morale de cette histoire.
Il n'a pas acheté une maison hantée. Mais, écoute, c'est le côté du réalisme, c'est vrai, comme tu dis, de cette famille-là. C'est... T'as comme la fille qui ne veut pas... La fille qui n'est pas bien. T'as le père qui veut quitter l'espèce de vie moderne des années 80 qui semble scraper sa vie. Puis t'as la belle-mère qui est complètement bien trop ancrée dans cette vie superficielle-là, tu sais. Fait que c'est le fun. Les Deeds, chacun ont leur truc. Puis à la fin, bon, tout ça se ramasse à la même place. Mais ouais, c'est vraiment un personnage intéressant de Jeffrey Jones.
Comme tu dis, ça fait du bien de le voir aussi dans un rôle où il joue pas le méchant.
Ben oui.
C'est tout le temps un méchant dans les films. T'sais. Puis on en a vu un et un autre.
On est rendu à trois, je pense, sur Vision X. Trois, quatre. Je sais plus. Trois.
Ben, il y a eu...
Howard the Duck.
Howard the Duck. Il y a eu Stay Tuned.
Ouais, c'est ça. C'est le troisième. Ça fait le deuxième en deux semaines. Dans trois semaines.
C'est
le troisième, je crois. Écoute, s'il y a quelqu'un à un moment donné qui veut réécouter tous nos épisodes, là, nos 75 épisodes, faire une liste des acteurs qu'on fait... Là. Qu'on a parlé, allez-y, là. Moi je le ferai pas, mais j'ai pas le goût de réécouter. Non, ben, en fait, je pourrais passer à travers les listes, je les ai. Peut-être un moment donné, je ferai ça. Mais non, c'est le fun de voir dans un rôle très terre à terre, un rôle qui est. Tu sais, dans Howard the Duck, il est pas méchant au début, mais il est un peu weird, t'sais, il est un peu spécial, c'est un scientifique qui utilise un laser pour. En tout cas, mais. On retombera pas là-dedans.
Non,
mais.
Non.
Tu sais, bon, dans Stay Tuned, il fait le méchant. Puis dans d'autres. Mais là, il fait un rôle d'une personne normale, tu sais.
Personne... En fait, c'est probablement le plus normal de toute la gang.
Oui. Puis il fait très bien. Parce qu'il y a une espèce de très grande douceur, là. Puis très, côté très candide qui, dans son personnage que j'aime bien, là.
Oui, non, absolument. Ça nous amène donc à notre prochaine vedette, Glenn Shaddix.
Il est drôle.
Qui joue Otho.
Donc, casting pour replacer... parfait.
Oui. Mais pour replacer donc ce personnage-là dans l'histoire, pour ceux qui auraient vu le film depuis... qui n'auraient pas vu le film depuis 20 ans, il s'agit donc du conseiller... Comment t'appelles ça? Décorateur d'intérieur et d'extérieur. Designer. Et slash médium.
Oui, c'est ça, spécialiste du paranormal.
Spécialiste du paranormal, des Deeds. Weird personnage.
Ouais.
Mais ça fonctionne.
Non, mais je te dis, c'est tout un casting, là. C'est malade comme casting, c'est parfait. C'est fait pour lui. Lui, il est né pour jouer ce rôle-là. C'est tout. Il jouait tout le temps des rôles de même dans tous les films, mais bon. Puis je voulais vite aborder Sylvia Sidney qui joue Juno. Elle est bonne, Juno. Là. Espèce de vieille madame. Elle a un sens, encore une fois, un sens de livrer ses punches. Là. Tu sais, c'est un personnage extrêmement pince sans rire. Là.
Oui, mais surtout que moi, ce que j'ai aimé de ce personnage-là, c'est que, tu sais, c'est la madame qui vit dans, je sais pas si on peut dire l'enfer, mais en tout cas, dans l'au-delà.
Dans le bureau de l'au-delà.
Dans le bureau de l'au-delà. Et puis, elle évalue les cas des gens, à savoir s'ils ont besoin d'aide, si de l'aide peut leur être apportée, et ainsi de suite. Puis elle est tout le temps en train de fumer, puis elle est tout le temps, tu sais. Puis elle a vraiment le casting aussi, tu sais, ouais. De cette espèce de madame de « man, ça doit pas s'en dire bon dans sa bouche, là. » Elle doit en avoir bu de l'alcool, puis elle doit en avoir fumé des cigarettes.
Tu tu sais, en fait, elle joue une fonctionnaire de l'au-delà, puis c'est parfait. Parce que tu vois que, comme ben des fonctionnaires, elle a pas le goût d'aider qui que ce soit, tu sais. Elle fait juste sa job, puis elle a punch à la fin de la journée. Putain. On salue tous les fonctionnaires du gouvernement qui nous écoutent. Quand on va faire nos rapports d'impôts, hein.
Justement, je m'en vais chez une fonctionnaire demain pour l'action de grâce. Hey, d'ailleurs, demain, c'est l'action de grâce. Nancy puis moi, ça va faire 10 ans.
Oh! Félicitations. Bravo.
Merci, merci. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que. Elle a vraiment le bon ton. Puis elle a vraiment. Tu sais, parce que ça fait. Dans l'au-delà, là, ça doit faire des milliers d'années qu'elle a. Là. Fait que, tu sais, elle a comme cette espèce de. D'usure.
Ouais.
Que tu veux chez ce genre de personnage-là. Tu sais, ça fonctionne.
Elle me fait penser, là, quand j'étais au bureau d'arrondissement lundi passé, là, à la madame qui m'a servi. Ils n'ont pas le même âge, mais ils ont la même attitude. Fait que les effets spéciaux, écoute, c'est vraiment pas très bon. C'est vraiment mauvais.
Mais c'est le stop motion, il paraît là, gros comme le bras. Là, mais il y a quelque chose de très cartoon, comme dans le bain des films de Tim Burton.
Oui, mais c'est parce que le stop motion, particulièrement dans celui-là, il est tellement cheap que il y a beaucoup de stop puis pas tant de motion que ça. Mais écoute, ils ont eu seulement 1 million pour l'ensemble des effets spéciaux du film. Là. C'est très peu. Là. Surtout que c'est un film qui est lourd en effets spéciaux. Là.
Ouais. Tout le film a été fait sur environ 15 millions.
Ouais.
Pense-y, là.
C'est pas tant que ça.
15 millions. Pour tout faire ça.
Ouais.
Salaire, puis il y en a quand même une couple là-dedans hein,
qui était connu.
Des bons acteurs connus. Fait que les salaires, bon. 15 millions, c'est pas beaucoup.
Non. Mais tu sais, la semaine passée, on a parlé de Little Shop of Horrors. La scène finale a coûté 5 millions, tu sais.
Ouais.
Il y avait 5 fois plus de budget pour une scène que dans le film, que tous les effets spéciaux de Beetlejuice. Fait que c'est très cheap. Ce que j'ai trouvé vraiment le fun, par contre, c'est le décor. Surtout, tu sais, quand ils sont sur la maquette de la ville, là.
Ah oui, c'était cœur.
Le gazon, le faux gazon de la maquette, là, me fait triper.
Ah oui. Mais tu sais, moi, je me suis dit au début, parce qu'évidemment, c'est ça, ça faisait vraiment longtemps que j'avais vu ce film-là. Fait que quand le générique d'ouverture commence, puis il y a une espèce de caméra qui survole la ville, puis là, tu vois la ville en question. Puis là, ouais. Je me dis, oh my God, ça a tellement de l'air d'une miniature, c'est épouvantable, il n'y a pas de vent dans les feuilles. T'sais. Il aurait dû prendre un avion, passer au-dessus d'une petite ville, puis ça aurait été ça. T'sais. Ça a vraiment l'air d'une maquette. Et oui, c'est parce que c'est la maquette. Mais finalement, ils ont mis de l'effort à la fabrication de cette maquette-là. Bravo. Puis surtout, c'est ça, la place que cette maquette-là finit par prendre dans le film, avec la mouche, l'effet mouche qui se pose, puis le Beetlejuice bouffe la mouche. En tout cas, c'est très, très, c'est très, bon. Très bien fait. Les décors, les costumes, on en a parlé, les costumes de Beetlejuice, il y en a plusieurs, le costume de mariage, il y en a plein de cowboy, de machin. Il y a aussi toutes les espèces d'effets de face. Tu sais, moi, c'est la scène que je détestais quand j'étais plus jeune. Là où est-ce qu'il s'allonge la face.
Ah ouais, c'est cool, c'est masqué.
Il y en a une qui se rend. Barbara Maitland, elle se rentre les deux yeux dans la tête, puis ils sortent par la bouche.
Ouais.
Puis Adam, lui, il se met les yeux sur les doigts. Puis, tu sais, c'est comme. Mais c'est bien fait!
C'est hot, quand même. Ça, c'est hot. Je dois dire aussi le bureau de l'au-delà qu'on parlait tantôt. Hein. C'est vraiment cool. Le décor est magnifique.
Il y a comme des jeux d'éclairage, mais comme la forme du plancher est vraiment pas droite. Là.
Ouais.
Mais en même temps, il y a des tuiles dessinées sur le. Mais pas des tuiles carrées, des tuiles avec des formes particulières sur le plancher qui est pas droit. Fait ça donne une espèce d'effet de c'est weird. Cool. Là. C'est vraiment très bien réussi.
On enchaîne!
On enchaîne! Sébastien.
Oui?
Au début de l'épisode, tu me demandais si j'avais quelque chose qui m'avait gossé.
Ouais, j'avais hâte de savoir c'est quoi.
Dans le scénario. Ben, en fait, ce qui m'a gossé le plus, c'est le concept de Adam et Barbara Maitland. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le concept de ces personnages-là?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le concept de ces personnages-là? Ils sont tous habillés pareil?
Non, ça c'est conséquent. Ils sont habillés avec les vêtements qu'ils avaient lorsqu'ils sont morts.
Indice.
Dans le bureau de l'au-delà, quand ils attendent en ligne, ben, en tout cas dans la salle d'attente, et il y a un corps à côté d'eux autres qui est tout calciné, qui leur propose une cigarette s'ils veulent fumer. Ça, c'est un indice sur ce qui ne fonctionne pas dans le concept des Maitland.
Ils ne fument pas.
Non, ben, c'est-à-dire que le personnage en tant que tel, le personnage qui leur propose une cigarette, lui est tout calciné parce qu'il est mort brûlé dans son lit. Il a échappé une cigarette. Ouais. Il est mort, fait qu'il est tout brûlé.
Okay. Un autre indice. Hey, je le vois pas. C'est bon.
Les Beetlejuice nous dit à un moment donné que les gens qui se suicident finissent par être des fonctionnaires dans l'au-delà. Et c'est pour ça que la fille qui finalement sert les Maitlands au bureau a des cicatrices au poignet parce qu'elle s'est suicidée.
Ah, mais c'est parce que c'est les seuls morts, les Maitlands, qui ont comme rien d'apparent sur leur corps. Ils restent normaux, ils sont parfaitement normaux, tandis que tous les autres morts, ils ont une particularité. Ils n'ont pas de marque à cause de ça.
Et voilà, 8 sur 10 pour toi, Sébastien. Ce qui me gosse, c'est que les Maitlands ne sont pas mouillés.
C'est vrai. Parce qu'ils ont tous des liens à comment ils sont morts.
Dans le bureau de l'au-delà, il y en a un qui est pendu, il y en a un qui a un os en travers de la bouche, de la gorge, pardon. Il y en a un qui est écrasé, il y en a un autre. Ils ont toutes
c'est
une
vrai.
Séquelle de la façon dont ils sont morts.
Ils vivent toute leur mort dans leur vie après la mort.
Sauf les Maitland. Qui ne sont pas mouillés.
Eh ben, tabarouette. Yeah! On va continuer.
Dans les recherches que j'ai faites, donc Tim Burton aurait pris la décision exécutive de ne pas mouiller les Maitlands de façon continue, simplement pour l'aspect pratico-pratique là, de pas laisser Alec Baldwin puis Gina Davis mouiller pendant 6 mois de tournage.
Tu veux pas que Gina Davis soit mouillée pendant 6 mois. Fait que on va continuer. Les extraits. Je suis vraiment déconcentré par le gif de Michael Keaton qui se pogne la graine intensément à chaque fois. C'est 20 secondes, c'est long. Tu sais, un gif de petite, tu regardes ça un peu, mais là je mets une boucle de 20 secondes, c'est les images. Là. C'est long, 20 secondes de Michael Keaton qui est comme wouhouhou! Ok. Fait que... j'ai 7 extraits cette semaine. C'est quand même étonnant. C'est pas un film qui est riche en extraits. De par la nature de ce qui se dit. Puis c'est parce que Beetlejuice parle tellement longtemps, il arrête tellement pas, que c'est difficile de prendre des petits trucs de ce qu'il dit. Fait que on va pas entendre vraiment Beetlejuice dans mes extraits. C'est ça qui est drôle. Le premier extrait.
Mais de toute façon, comme on le disait, il n'y a pas tant de Beetlejuice non plus, tu sais, tout court.
Le premier extrait, c'est une utilisation pour moi extrêmement bonne de la musique, ok? C'est une scène où il y a un lapsus.
Handbook for the recently diseased.
Deceased.
Deceased.
C'est hot. C'est très bon. Deceased. Non. J'ai adoré ça quand je l'ai vu.
Excellent. Oui, j'avoue, elle est très bonne.
Le deuxième extrait. Écoute, le personnage de Catherine O'Hara est tellement désagréable, mais tellement désagréable. Je regardais le film, je me disais, man, as-tu pensé à changer de femme, tu sais?
If you don't let me get out this house and make it my own, I will go insane and I will take you with me!
I will take you insane. I will...
Go insane go and insane, I will take, and you,
I will
with
take
me.
You with me.
Come on. Non, c'est folle. Ah, les ados.
My whole life is a dark room. One big dark room.
C'est bon. Le tempo de one big dark room. La manière qu'elle dit, là.
C'est vraiment un découragement, bon. Là, tu sais, d'incompréhension, d'abandon. Là, de...
Ouais.
Il y a beaucoup de ça dans son langage. C'est cool. C'est vraiment le fun. Mais ce qui fait en sorte aussi qu'à la fin du film, quand elle devient plus... pas qu'elle devient...
Normale.
Ouais, elle vient pas normale. Ouais, genre, en tout cas, bref. À la fin du film... Ça la rend comme encore plus attachante, je trouve, quand elle se met à danser puis qu'elle vole dans les airs. Puis
elle s'ouvre énormément à la fin du film. Là. Ce qui est drôle, là, c'est dans la scène qu'elle sort de l'école à la fin du film, là, il y a une fille, là, genre, bon, c'est des ados, là, 15, 16, 17 ans. Là. Il y a une fille dans le background, là, genre, ça m'a frappé. Je fais, man, elle a l'air d'avoir 72 ans. Là. Tu sais, des filles qui ont l'air de vieilles madames, man, c'est débile. Va regarder la scène quand elle sort de l'école. Je te dis, là. C'est surtout à cause des lunettes des années 80. Là. Je fais comme, holy shit. Le prochain, c'est Juno, qui est notre fonctionnaire préféré.
I evaluate individual cases and determine if help is needed, deserved, and available.
Are you available?
No.
Needed and available. Are you available? No. Là, tu te rends compte qu'elle dit non, qu'il n'y a jamais eu une chance à un moment donné qu'elle les aide. T'sais.
Non, c'était impossible. D'ailleurs, j'essaie de regarder qu'est-ce qu'elle a fait, cette actrice-là, Sylvia Sidney.
Je sais pas, man. C'est une vieille madame, man.
Elle a fait beaucoup de films en noir et blanc, en tout cas.
Ben, tu sais, elle avait l'air d'avoir 72 millions d'années. Quand elle est née en 1910. Quand même, man. 1910, là, ça fait longtemps, là, tu sais. C'était vraiment un commentaire, vraiment un grand commentaire de ma part. 1910, ça fait longtemps, tu sais. Vous pouvez regarder, hein.
Est-ce que je peux te citer?
Ouais, tu peux me citer, man. 1910, ça fait longtemps. Là-dessus, ah oui, Beetlejuice. Ça, c'est Beetlejuice, c'est ce qu'on va entendre là. C'est vraiment dégueulasse le son qu'il fait, hein?
I'll save that guy for later. Mais quelqu'un, il a dit ça, mais j'ai tellement ri, là. J'avais de l'air d'un con dans le métro.
Ah, man, tu sais, il crache dans son manteau, là, quand. Ah, oh, man. Tu sais, mais moi, c'est pour... Qu'est-ce qu'il va faire avec plus tard, tu sais?
La question...
C'est ça, c'est la question.
Très juste. La question est très juste. Qu'est-ce... Il garde pour plus tard, mais qu'est-ce qu'il va faire avec?
Non, mais on sait jamais quand on va avoir besoin d'un moton de même, là. Pis, écoute, ça a l'air d'un moton, là. Écoute, on va l'écouter, là. Save that
guy for later, huh? Tout qu'un clam.
Le prochain, ça c'est un vrai joueur de football.
Coach?
What?
I don't think we survived that crash.
How did you guess?
Encore la réponse de Juno qui est comme, man. Elle n'a pas le goût d'être là. Mais ça, l'idée là, de l'équipe de football qui est toute morte d'un accident puis qui est toute en même temps dans le bureau de Juno, c'est drôle.
Mais ça, quand ils sont dans l'au-delà, il y a beaucoup de citations de grands événements qui sont arrivés. Puis en fait, la réponse à ta question, c'est que si je me souviens bien, si j'ai bien lu, là, peut-être que je mélange, là, parce qu'il y en a plusieurs des citations de, d'événements tragiques. Mais il y en a un, c'est qu'on entend dans l'intercom vol 409, c'est comme arrive à bientôt. Mm-hmm. Mais en fait, c'est que dans ces années-là, il y a eu la plus grande tragédie aérienne de vol intérieur aux États-Unis. Là, ils ont crashé, puis tout le monde est décédé.
Ouais.
Dans l'avion, mais encore à ce jour, ils ne savent pas pourquoi l'avion s'est écrasé. Et donc, c'est en lien avec ça. En fait, si je ne me trompe pas, il y avait des joueurs de football là-dedans qui s'en allaient donc, d'une ville à l'autre pour jouer des matchs. Mais c'est ça. Donc, il y a plein de citations comme ça au cours du film quand ils sont dans l'au-delà de tragédies où des gens sont morts.
Je vais me coucher moins niaisé ce soir.
Mais oui, il n'y a pas juste des niaiseries dans Beetlejuice.
OK. Ça, c'est Beetlejuice. Hein. Écoute, je sais pas trop quoi penser. OK.
The man next to me is the one I want. You ask me, I'm answering. Yes, I love that man of mine.
If you ask me, I'm answering. C'est surtout cette phrase-là que j'ai faite comme... C'est-tu une manière de justifier qu'il est en train de marier la fille, genre? Parce que si oui, là...
C'est weird.
C'est vraiment dégueulasse, là. Parce que, alors, j'étais assez vieille, j'ai des menstruations, c'est correct. Parce que je dis que c'est Beetlejuice parce que, dans le fond, Beetlejuice, il possède momentanément la fille, fait qu'il peut parler, en tout cas. Ah, c'est un peu weird, là. Musique.
Cue the music.
J'aime la musique.
Danny Elfman, évidemment. Qui dit Tim Burton, dit Danny Elfman.
Danny Elfman. Fait que ce trio-là de Michael Keaton, Tim Burton et Danny Elfman, ils ont travaillé fort dans ces années-là. Hein?
Ah, écoute, ils nous ont donné beaucoup d'heures de...
Beetlejuice en 88, Batman en 89, si je me souviens bien, ouais. Batman Returns en 90, 11.
11, je crois.
Donc, oui, ils ont été assez prolifiques. Qu'est-ce que tu penses de la trame sonore de Danny Elfman, même si je crois que je sais bien, je connais bien la réponse à cette question?
Écoute, c'est un classique instantané. Ben, premièrement, c'est un chef-d'œuvre de Danny Elfman. Tu sais, si vous voulez comprendre c'est quoi le style de Danny Elfman, si vous vous demandez c'est quoi son style, écoutez ça. Vous allez tout de suite tomber dessus. C'est bien fait, mais c'est très particulier, là. Ça ressemble pas tant... Il y a aucun autre compositeur que je connais qui sonne de même, là. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses.
Ben moi, ça me fait beaucoup penser à la trame sonore de Nightmare Before Christmas.
Ouais.
Il y a comme une espèce de d'horreur, cirque. Il y a comme un... Je sais pas exactement comment décrire cette espèce de sentiment, mais... C'est vraiment de la bonne musique, mais c'est vraiment une sonorité particulière, encore une fois. Tu sais, un Danny Elfman qui réussit à nous inventer. Parce qu'on se rappelle que Danny Elfman, c'est aussi lui qui a écrit la musique des Simpsons. Là, tu sais.
Ouais.
Fait qu'on a un univers de différence des Simpsons. Bravo, parce que c'est une sonorité vraiment particulière qui va chercher d'ailleurs seulement pour les films de Tim Burton.
Oui, parce que écoute, je vais vous... L'énumérer une liste de choses que Danny Elfman a fait. Surtout pour les gens qui sont moins familiers peut-être avec Danny Elfman. Ou tu sais, qui vont faire comme « Ah, c'est Danny Elfman ça! » Tu sais, bon, Pee-wee's Big Adventure, évidemment. Beetlejuice, Big Top Pee-wee, Scrooge, Batman, Dick Tracy, Darkman, Edward Scissorhands, Batman Returns, Army of Darkness, The Nightmare Before Christmas, Mission Impossible, le premier. Fait que là, on est dans une autre affaire complètement, là. Mars Attacks, Men in Black, Flubber, Good Will Hunting. T'sais, on s'entend, là. On est loin de Flubber. Sleepy mais Hollow.
C'est ça. Donc, il y a vraiment... Ben, évidemment, ils ont un gros... une longue histoire d'amour, Tim Burton et Danny Elfman. Mais il y a vraiment des univers sonores très, 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 très différent d'un film à l'autre. Puis je dirais que c'est sur ce point-là, c'est plus grandiose que la musique de John Williams, qu'on reconnaît toujours la musique de John Williams. Puis peu importe c'est quoi le film, on sait quel espace ça va prendre, quel type de sonorité on va entendre. Pardon. Danny Elfman, lui, vraiment, il nous emmène dans des univers complètement différents, dépendamment du film qu'on écoute. Je trouve ça absolument magnifique.
C'est fou parce que c'est ça. Il a aussi fait de la musique de super-héros, tu sais, des Spider-Man de Sam Raimi. Hein? C'est lui qui a fait ça. Fait, il joue dans beaucoup de choses. Puis là, on arrive. Moi, ce que j'aime, c'est ça, j'appellerais un peu dans la musique d'horreur, là, parce qu'il a fait beaucoup de films d'horreur, là, de Danny Elfman. Fait qu'il réussit à aller dans de quoi de weird, de complètement éclaté. Puis il y a des bouts là, où c'est aussi bizarre que ce qu'on voit à l'écran, tu sais. Mais sans être inaccessible pour les gens. Tu sais.
Non, c'est toujours agréable à écouter.
Ouais.
Puis c'est ça, moi je fais vraiment un lien entre Nightmare Before Christmas puis Beetlejuice à ce niveau-là. Il y a vraiment une suite logique.
Ben, il y a trois films qui ont une suite logique dans le fond. T'as Beetlejuice, Edward Scissorhands, puis Nightmare Before Christmas qui sont comme une espèce de... C'est quand même lui qui a fait la musique de Fifty Shades of Grey.
Oh! Là, il vient de descendre dans mon estime. Non, non, non.
On a dit tantôt, man. On fait ça pour manger aussi. Là-dessus, David!
He scores!
Je donnerai la note de 8 sur 10. Je trouve que c'est un très bon film. C'est un classique qui mérite d'être vu. Par contre, j'aurais aimé une histoire avec un peu plus de direction, un fil conducteur un peu plus fort. Comme je le disais tantôt, ça se pitchait un peu trop partout, cette histoire-là. Mais ce qui est en même temps une force et à un moment donné, une certaine faiblesse aussi. Les effets spéciaux qui sont un peu boboches, c'est un film qui aurait mérité d'avoir beaucoup plus de financement que le petit montant qu'il a reçu. Maintenant, je trouve ça incroyable que Tim Burton ait réussi à nous sortir cette bête, ce monstre, avec aussi peu d'argent, avec les moyens qu'il avait. Là. Bref, un 8 sur 10 bien senti. Là. Je donne pas de 0.5 parce que j'essaie de pas, là, mais 8 sur 10. Toi, Sébastien, qu'est-ce que t'en penses?
Je donne 9 parce que c'est un grand travail de réalisation. Là. Pour vrai, là, il y a des affaires là-dedans, c'est incroyable. Il y a des scènes. La fameuse scène là, où ils se font posséder puis ils se mettent à chanter là, au souper. Là. C'est incroyable comme scène. Mais tu vois que c'est un travail de direction. Tu vois, il y a... Je regarde, c'est une œuvre d'art. Même le côté... même les effets spéciaux qui sont cheap, c'est pas de sa faute. Mais ce qu'il a créé visuellement dans ce film-là, c'est incroyable. C'est un bon film. Moi, j'aime le fait que c'est complètement décousu parce que ça fit avec ce qui se passe. Parce que t'es comme, man, on est où? Pour moi, ça fait partie du tout du film. Un grand film à regarder si vous n'avez jamais vu et à re-regarder si vous l'avez déjà vu. Là-dessus, David, salutations, anniversaire. Ça va?
Oui, non, j'avais fermé mon micro. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du célébrissime Tim Minchin.
Oh!
42 ans, ce cher Tim. Si vous ne connaissez pas Tim Minchin, garochez-vous là-dessus. Surtout les musiciens. Les musiciens. Tim Minchin, c'est quelqu'un sur qui on capote. Merci mille fois à Philippe Legault pour nous l'avoir fait découvrir, ouais. Sébastien et moi. C'est quelqu'un qui joue, qui fait des chansons connes. C'est son créneau, c'est ça. C'est de faire de la comédie en musique. Et puis, toutes ses pièces sont plus incroyables les unes que les autres. Il réussit à nous sortir F Sharp, qui est son classique musical parfait. Mais il y a aussi Storm, qui est un poème rythmé, mais qui détruit en même temps. T'sais, il y a comme un univers incroyable. Tim Minchin, 42 ans aujourd'hui. Bonne fête.
Bonne fête, Tim. J'aimerais ça vous rappeler d'aller sur notre Patreon à patreon.com/sbalbino pour nous aider. Comme je disais tantôt, on a du contenu exclusif pour vous. Allez-y, faites un tour. Ça nous aide à garder notre émission en vie et même la faire croître. Donc allez faire un tour sur patreon.com/sbalbino. C'est tout pour nous cette semaine. La semaine prochaine, on va vous faire un épisode sur Gremlins. Ça va être drôle, ça. Allez faire un tour sur notre site internet moi-geek.com/visionx. Vous allez trouver tous nos épisodes. La meilleure façon d'avoir accès à tout ce qui est Vision X, allez sur Balado Québec. Là-bas, vous allez trouver tous les liens à ce qui est nos sites, notre Facebook, notre Twitter, notre Patreon. Vous ne pouvez rien manquer. Notre chaîne Twitch. Allez-y, Balado Québec. Je me dis que ça va aller plus vite demain. Hein? On va faire ça comme ça. Tout est résumé dans Balado Québec. Puis j'en profite pour saluer la gang de Balado Québec. Partout où on est, allez nous laisser un 5 étoiles. Allez sur Balado Québec, 5 étoiles, ça nous aide énormément aussi et ça coûte rien. Fait que hein, c'est encore mieux, c'est bien. Faut aussi nous donner $1 par mois et en plus un 5 étoiles, c'est super. Là-dessus, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne semaine. David, bonne semaine.
Bonne semaine à toi, Sébastien.
Et on se reparle la semaine prochaine.